Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Microsoft, cette semaine, a fait une opération d'achat tout à fait significative pour un montant de 68,7 milliards de dollars, et ceci pour acheter Activision Blizzard, ce qui constitue l'une des acquisitions les plus importantes dans l'histoire des jeux vidéo. Activision Blizzard est un acteur central de ce marché en pleine exploitation. Il est loin le temps où les enfants jouaient avec des peluches ou avec des petites voitures. Aujourd'hui, ce sont les consoles, ce sont les écrans, et le monde des jeux vidéo aujourd'hui est totalement présent à la fois auprès des jeunes consommateurs, mais également auprès des trentenaires, quarantenaires qui sont dans la vie active et qui sont toujours dans une certaine nostalgie de leur découverte des jeux vidéo, ce qui fait que nous sommes en présence d'un marché absolument considérable, marché qui aujourd'hui donc va bénéficier des fonds qui sont alloués par Microsoft pour acheter Activision Blizzard et contribuer au développement de cette activité. Côté voiture, Tesla, la fameuse firme Tesla qui a réussi à s'imposer dans le secteur automobile en très peu de temps, finalement, en très peu d'années, alors avec des voitures très design, très électriques, mais aussi très chères à l'achat, eh bien, Tesla a battu son record de livraison de véhicules au second trimestre de cette année 2024. Il y a malgré tout des problèmes de chaîne d'approvisionnement, il y a ici et là des problèmes aussi quant aux véhicules avec des opérations de rappel. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces opérations de rappel? Oui et non. Non, parce que ce sont des mesures qui sont prises en anticipation de problématiques éventuelles. Donc c'est une prudence, donc il y a pas matière à s'en inquiéter. Mais on peut malgré tout se dire que ce sont des opérations qui sont extrêmement chères, qui sont tout à fait onéreuses et qui coûtent aujourd'hui beaucoup d'argent à la firme Tesla qui malgré tout est en situation de croissance. L'inflation américaine a atteint un nouveau sommet en 40 ans. Encore un record, c'est pas forcément le record que les Américains, que les consommateurs américains voudraient voir. 8,6% d'inflation au mois de mai. Cela accroît la pression sur la Fed afin qu'elle resserre davantage sa politique monétaire. C'est tout à fait important puisque nous sommes aujourd'hui en période de campagne électorale, indépendamment des inquiétudes judiciaires qu'il y a sur le sort de Donald Trump. Mais il y a malgré tout ces deux programmes qui aujourd'hui s'affrontent, les démocrates et les républicains. Nous allons en parler avec notre invité, Gérald Olivier, qui est un spécialiste de l'Amérique, de l'économie américaine. C'est vrai, Gérald Olivier, d'abord merci d'être avec nous dans Economia. Aujourd'hui, le dossier économique est tout à fait prégnant et important dans le contexte de cette campagne électorale américaine, de cette présidentielle. Cela cristallise aujourd'hui beaucoup d'attention de la part des équipes de campagne.
Ben écoutez, si les Américains comparent, l'épaisseur de leur portefeuille, l'état général de l'économie, mis à part le Covid qui a ruiné la dernière année de la présidence de Donald Trump, ça se passait beaucoup mieux sous Trump que ça ne se passe sous Joe Biden. En janvier 2021, dernier mois de la présidence de Donald Trump, l'augmentation des prix sur l'année, elle est de 1,4. Depuis, elle est passée à 3,7 avec un total de 17% d'augmentation des prix cumulés sur les trois premières années et demie de la présidence de Joe Biden. Le chômage n'est pas un problème parce que l'économie tourne relativement bien. Le problème, c'est les revenus. Et les revenus ont stagné alors que les prix ont considérablement augmenté, en particulier les prix de l'énergie et les prix des denrées de première nécessité. L'énergie de base, c'est le pétrole.
Oui.
Or, le prix à la pompe, comme le prix du pétrole en général à la production, a considérablement augmenté, en grande partie parce que l'administration Biden a mis en avant une politique qui consiste à désinvestir dans ce qu'on appelle les fossil fuels, les hydrocarbures traditionnels, ce à quoi le marché n'est pas prêt, ce qui a provoqué à la fois des pénuries, des difficultés d'approvisionnement et une explosion du prix de cette denrée de première nécessité. Derrière, lorsqu'on regarde le prix de la viande, le prix du pain, le prix du panier de la ménagère, comme on dit aux États-Unis, les prix ont considérablement augmenté. Donc non, l'économie ne va certainement pas mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'un des points sur lequel l'administration Biden s'interroge, parce que, souvenez-vous, à l'automne, ils ont beaucoup cherché à vendre ce qu'ils appelaient les Bidenomics.
Oui, absolument.
Les fondamentaux ne sont pas forcément mauvais.
Absolument, ils sont plutôt bons. Bien sûr.
mais c'est au niveau du quotidien où c'est beaucoup plus difficile. Mmh. Et ils ont cessé parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas la réponse attendue du côté de l'électorat, mmh. étant donné que pour les électeurs au quotidien, les choses sont beaucoup plus difficiles.
Mais est-ce que l'économie américaine, c'est toujours une économie surendettée, avec des Américains, des citoyens américains qui remboursent leur éducation jusqu'à très tard dans leur existence professionnelle? On est toujours sur ce schéma-là. Et finalement, c'est un schéma qui convient plutôt bien et qui permet l'alternance entre démocrates et républicains.
La question de la dette, c'est une question sur le long terme. Et en fait, en proportion du PIB, comme ouais. on dit, mmh. la dette américaine n'est pas aussi élevée que celle d'autres pays comme le Japon, comme la Grèce, même comme l'Italie ou d'autres pays européens. Mais par contre, à long terme, oui, la dette sera un problème. La question, c'est comment résoudre cette dette. Mais il y a deux façons de la faire. La première, c'est par la croissance économique. Oui. La deuxième, c'est par, je dirais, la réduction ou au moins l'arrêt de l'augmentation des dépenses. Mmh. Or, ce n'est pas ce que veulent faire les démocrates qui, eux, préfèrent agir sur la taxation.
D'accord.
Mais ils ont quand même compris, et la Réserve fédérale l'a compris également, que le jour où vous décidez de rembourser la dette autrement que par la croissance, vous créez une crise économique sans précédent parce que l'économie n'a pas la capacité à la rembourser rapidement. Mmh. Par contre, si vous étalez cette dette dans le temps en réduisant les dépenses et en soutenant la croissance, elle mmh. peut s'avérer être un faux problème. Simplement, aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'État américain, le gouvernement américain est devenu trop gros, ouais. le budget est trop important, l'État dépense trop, aussi bien pour la défense, mais également pour un tas, je dirais, de dépenses totalement discrétionnaires, notamment celles qui visent à favoriser la transition écologique et qui consistent à investir des milliards de dollars dans des aspects de l'économie qui n'en ont pas besoin et à entretenir de par cela cette dette. Si vous cherchez à résoudre le problème de la dette rapidement, vous créez une crise. Si vous facilitez la croissance et que vous réduisez les dépenses du gouvernement, vous pouvez parvenir de manière, non pas simple, mais je pense de manière beaucoup plus rapide qu'on ne le pense aujourd'hui, à réduire cette dette pour faire qu'elle ne soit pas le poids qu'elle représente aujourd'hui.
Mais dans la vie des ménages américains, il y a toujours une paix, une acceptation totale en se disant, voilà, le fait de vivre à crédit, c'est, finalement, ça fonctionne et pourquoi pas. Et ça c'est aujourd'hui, ça fonctionne. Et finalement, ce n'est même pas un problème.
Alors, d'abord, les ménages américains sont habitués à vivre en
dette. Oui, c'est ça, ouais.
Pour être riche, il faut avoir des dettes, et voilà, plutôt que des ouais. économies. Ouais. Quand vous avez des économies et l'inflation et l'État vous les prennent, quand vous avez des dettes, c'est vous qui êtes plus riche que vous ne pensez l'être.
D'accord.
Mais l'idée, à partir du moment où vous parvenez à rembourser vos crédits, vivre endetté n'est pas forcément un problème. Et pour l'instant et jusqu'à présent, la dette a été managée. Maintenant, c'est là où l'inflation arrive et crée un problème supplémentaire, c'est que l'inflation augmente ou a pour conséquence d'augmenter les taux d'intérêt à moyen et long terme, dont le taux de la dette. Donc du jour au lendemain, ce que vous payez en intérêt sur cette dette devient de plus en plus important parce que justement, tout d'un coup, les taux d'intérêt ne sont plus à 1 ou à 2, mais ils sont à 6 ou à 7. Donc actuellement, la difficulté des ménages américains, elle est de s'endetter pour eux-mêmes, au-delà de là où ils le sont déjà. On le voit sur le marché de l'immobilier.
C'est-à-dire, ça se passe comment ?
Ben, ça se passe que le marché est en train de s'effondrer.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que parce que les ménages américains ne sont pas en mesure de payer des intérêts à 7%, alors qu'ils étaient capables de payer des intérêts à 1 ou 2%.
Mmh, ouais.
Donc, tant qu'il n'y a pas d'inflation et que les taux sont très très bas, payer, dans le temps n'est pas un problème. Mais si vous prenez un crédit immobilier à 30 ans et que les taux sont à 6 ou 7, ça représente un coût d'intérêt qui est 2-3-4 fois plus élevé que ce que vous pouvez vous permettre.
Mmh.
Donc sur le marché de l'immobilier, on constate aujourd'hui une saturation qui n'est pas liée au niveau d'endettement, mais qui est beaucoup plus liée à l'inflation.
D'accord.
Par contre, pour ce qui est de la dette en général, les Américains sont en effet relativement habitués à vivre avec. Sur le plan du budget dans son ensemble, il y a, je dirais, un palier qui est sur le point d'être franchi, c'est celui où l'intérêt de la dette devient le premier poste budgétaire.
D'accord.
Et pour l'instant, c'est encore le budget de la défense, mais d'ici quelques mois ou peut-être même quelques semaines en fonction de l'inflation, ça pourrait être les intérêts sur la dette publique.
Mais est-ce que pourquoi vous dites que ce budget, par les États-Unis, alors au-delà de l'aspect démocrate-républicain, mais les États-Unis sont une puissance, une grande puissance mondiale, pourquoi, enfin, je veux dire, tout cela, ça a un coût, il faut bien s'engager, il faut bien être présent. Vous pensez que c'est vraiment aujourd'hui les États-Unis, selon vous, dans la gestion budgétaire des forces armées, ils dépensent trop, selon vous, pour la défense, ça ?
C'est pas ce que j'ai voulu dire. Et je ne suis pas convaincu qu'ils dépensent trop. Non, la sécurité est extrêmement importante. Et la question, la question de la défense, elle est beaucoup plus liée, je dirais, à l'instabilité et l'insécurité dans le monde qu'elle n'est liée à la puissance américaine. La puissance américaine vient de sa technologie, vient du fait qu'elle était jusqu'à présent en avance sur un certain nombre d'autres pays. Ça vient aussi de la taille de son économie qui fait qu'elle est capable de générer plus de profits que n'importe qui d'autre. Maintenant, les États-Unis, sur le moyen et long terme, n'ont pas du tout l'intention d'être dans la deuxième moitié du 21e siècle, ce qu'ils ont été dans la deuxième moitié du 20e siècle et jusqu'à présent. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à une réorganisation de l'ordre international et, je dirais, à une forme d'échelonnage ou de partage des tâches. Ça fait déjà 30 ans que le public américain n'est plus prêt à être ou à payer pour être le gendarme du monde, mais les politiques, notamment au niveau américain et ailleurs, ne l'ont pas encore ou ont toujours refusé de le prendre en compte. Et tôt ou tard, c'est une réalité dont il faudra prendre conscience. Par contre, ce que les États-Unis ne sont pas prêts à faire, c'est à cesser d'avoir les moyens de se défendre eux-mêmes.
Bien sûr.
Pour cela, la défense restera un poste budgétaire très important. Et à mon avis, il est très important que les États-Unis restent la première puissance militaire au monde, parce que c'est le premier moyen pour assurer leur sécurité. Après, ce n'est pas forcément eux qui ont vocation à long terme à assurer la sécurité de tout le reste du globe, et de le faire tout seul.
Maintenant, c'est vrai aussi que c'est compliqué. Oui, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est compliqué pour un État de vivre sans, quand on est une hyperpuissance, de vivre sans exposition à l'étranger. Et effectivement, les budgets sont tout à fait colossaux. Mais pour revenir à la scène politique intérieure américaine, aujourd'hui, est-ce que le modèle fédéral américain, est-ce que c'est un modèle qui fonctionne encore ? Est-ce qu'il y a des disparités ? Parce qu'on a toujours un peu une image de l'économie américaine comme avec d'immenses disparités. Avec le Vermont n'est pas la Californie n'est pas le Texas, etc. On a toujours cette photographie très différenciée de ce que sont les États-Unis d'Amérique, de l'économie.
Ça reste un grand pays, ça reste en effet des inégalités de niveau de vie entre certains États. Pour moi, le premier problème aujourd'hui, il n'est plus celui de l'inégalité entre le Sud et le Nord ou entre l'Ouest et l'Est. Il est plus celui d'un amenuisement, d'un appauvrissement et d'une disparition de la classe moyenne, et une disparition qui est axée sur l'élimination de ce qui a été la colonne vertébrale de la croissance américaine au XXe siècle, à savoir le secteur manufacturier et l'industrie lourde. Les États-Unis ont exporté, ils ont délocalisé leurs industries au profit des services, et ce faisant, ils ont appauvri tous les gens qui étaient ce qu'on appelait les cols bleus, qui étaient les travailleurs, qui ont été au cœur de la richesse et de l'enrichissement des États-Unis au XXe siècle. Et l'industrie des services n'a pas apporté de richesse équivalente à celle du milieu du secteur industriel d'avant. Elle a créé des équilibres, notamment sur celui de la balance commerciale. Et à mon avis, c'est un système qui, je ne dirais pas, arrive un petit peu en bout de course, mais commence aujourd'hui à montrer ses limites. Donc une réindustrialisation des États-Unis et de l'économie américaine elle-même n'est pas quelque chose qui, je dirais, n'est pas à prendre en compte aujourd'hui.
Bien sûr.
Par contre, c'est toujours un pays très grand,
oui, oui.
Toujours un pays qui croit à la valeur travail, qui croit à la valeur investissement et qui a à son service une machine extrêmement productive.
Mais parce que sur cette question de la relocalisation, d'ailleurs, il y a eu la période du Covid, hein, on s'en souvient, où on s'était rendu compte qu'il y avait des...
Les chaînes d'approvisionnement posaient problème.
Voilà, qu'il y avait des échecs et que ça posait de grands problèmes. Est-ce que, ça forcément, ça viendra de l'investissement privé. Aujourd'hui, dans le business model, dans l'état d'esprit de ceux qui font l'investissement en entreprise, c'est une préoccupation, c'est un intérêt de recentraliser, par exemple, l'industrie textile américaine qui a quand même considérablement basculé vers la zone Asie, par exemple sur un secteur qui est très porteur, hein, le vestimentaire. Il y a aujourd'hui de l'argent qui est mis sur cette histoire-là
Sur le textile.
Oui, sur la relocalisation, parce qu'il faut de l'argent pour le faire.
Sur les secteurs stratégiques, oui.
Oui, d'accord.
Alors après, les secteurs stratégiques, ils sont ceux qui peuvent être souvent ceux de l'industrie lourde, sur l'acier, par exemple.
D'accord.
Mais également sur les médicaments. Vous parliez du Covid. À l'occasion du Covid, les Américains se sont aperçus qu'ils importaient l'essentiel de leurs médicaments de pays comme l'Inde ou ailleurs.
Ouais.
Et que donc, ils n'avaient aucune, je dirais, autonomie, ni même sécurité d'approvisionnement, ni même véritablement des contrôles sur ce qui était fait.
Mmh.
Et on voit jusqu'à quel point l'arme de la santé peut être une arme stratégique aujourd'hui quand elle est utilisée par les uns et par les autres.
Oui.
Donc à chaque fois qu'il y a une crise, les Américains se rendent compte de là où ils sont indépendants et de là où ils ne le sont pas.
Mmh.
On a vu que pour le pétrole, l'auto-indépendance, l'autosuffisance était essentielle. Pour tout ce qui est de l'armement, c'est la même chose. Pour tout ce qui est de l'électronique, les Américains ont une avance qui fait qu'ils restent indépendants. Dans d'autres secteurs, tant qu'il n'y a pas de crise, les gens se contentent d'importer, même si d'un certain côté, ils s'en plaignent. Donc le textile n'est pas l'un de ces secteurs
stratégiques
pour l'instant, et ce n'est pas celui sur lequel il y a le plus d'insistance. L'électronique,
l'intelligence artificielle peut-être.
Voilà, l'intelligence artificielle, c'est le gros truc du moment.
Ah oui, il y a beaucoup d'argent mis dedans. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a toujours cette réflexion, peut-être d'aucuns diront fracture, lésion, je ne sais pas comment, quel mot est opportun, mais qu'il y a toujours ce questionnement profond et interne aux États-Unis. Est-ce que c'est America first ou est-ce que c'est l'Amérique, puissance mondiale resplendissante, qui dispense sur le monde? Comme si c'était finalement une question assez récurrente, si ce n'est lancinante, dans la vie politique et économique de ce grand pays.
C'est surtout une question idéologique.
Ouais.
C'est-à-dire que les républicains, les conservateurs n'ont pas peur de dire l'Amérique d'abord. Et ils considèrent d'une certaine façon que n'importe quel gouvernement national doit protéger d'abord ses nationaux avant de s'intéresser au reste du monde.
Oui.
Mais je dirais la générosité des gens de gauche et de l'essentiel du Parti démocrate aujourd'hui voudrait que l'on ne gouverne plus pour soi, mais que l'on gouverne pour le monde et que l'on gouverne donc en ayant en tête systématiquement l'intérêt des autres au-delà du sien. Et comme les États-Unis sont perçus comme le pays le plus riche, ce qu'ils sont effectivement, eh bien, ils ont une sorte de dette accumulée envers les autres et ils sont prêts à faire des efforts pour les autres plus que pour eux-mêmes. Le problème, c'est lorsque ces efforts finissent par leur coûter à eux, y compris des emplois, des vies, ou même, je dirais, une certaine qualité de vie.
Oui.
Il y a aujourd'hui aux États-Unis des problèmes, pour moi, qui sont extrêmement importants, structuraux, qui menacent même, je dirais, la survie à moyen terme des États-Unis. Je pense par exemple au problème du fentanyl et de la drogue dans un certain nombre
d'endroits. Oui, bien sûr, c'est une catastrophe.
Je pense aux questions culturelles, je pense à des questions liées à la transition énergétique et aux besoins ou non de politiques qui soient liées au réchauffement climatique et qui soient dans l'intérêt ou pas du pays. Il y a des questions qui fondamentalement menacent la prééminence américaine dans le monde.
Absolument.
Et l'une des interrogations de cette campagne, c'est est-ce que les États-Unis vont prendre leur intérêt sur le plan national et le mettre en avant, ou est-ce qu'ils vont continuer à être une puissance altruiste qui se repose sur sa richesse pour laisser les autres venir la rattraper.
Oui. Mais elle existe vraiment, c'est une classe, c'est pas une classe, mais c'est une catégorie de la population américaine, de ceux que l'on a appelés, l'expression est assez odieuse, mais on les appelait les petits blancs, mais je trouve que c'est les ouvriers américains qui allaient à l'usine, qui travaillaient dur, qui travaillaient longtemps, dans des conditions souvent qui étaient difficiles d'ailleurs. Aujourd'hui, ce sont vraiment des gens qui qu'est-ce qu'ils sont, hein? Ils sont mis à la marge des hautes strates qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont paupérisés, ils sont en souffrance, ils sont en colère. Comment vous définiriez ceux qui semblent nous, enfin, c'est, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on peut le percevoir depuis le Maghreb. On se dit que ce sont un peu les oubliés du miracle américain.
Oui, ben ce sont les perdants de la mondialisation. Ah, oui. Il y en a aux États-Unis aussi.
Ah, oui.
Il y en a aux États-Unis. Tous ceux qui étaient liés au tissu industriel dont je parlais tout à l'heure et qui ont été victimes de délocalisation, ils en font partie. Alors, ils sont principalement blancs, mais pas uniquement.
Oui,
bien sûr. Il y a parmi eux des hispaniques. C'est l'ancienne classe moyenne. Ce sont les cols bleus. Ce sont les petits cols bleus des grandes entreprises de province, entreprises qui sont parties principalement à l'étranger, qui ont laissé les ouvriers derrière. Et quand on sait qu'aux États-Unis, je dirais, Le filet de sécurité sociale est quand même beaucoup moins généreux qu'il ne l'est qu'en France. On tombe sur des cas parfois très difficiles, avec pour résultat d'ailleurs, comme par hasard, un recours dans un certain nombre de ces populations à la fuite à travers des drogues de plus en plus dures et de plus en plus destructrices. Donc cette classe marginalisée, elle existe, mais on ne la voit pas. Elle est toujours invisible, parce que ce n'est pas elle qui est à Hollywood, ce n'est pas elle dont parle Netflix et les autres, ce n'est pas elle qui contrôle les médias, ce n'est pas elle qui contrôle la justice, ce n'est pas elle qui joue dans le jeu politique. Donc on la voit beaucoup moins, et c'est aussi une classe sociale qui avait tendance un petit peu à se reposer sur elle-même. Elle est conservatrice dans ses valeurs, et une des valeurs conservatrices, c'est l'épargne, c'est le travail,
c'est
le fait de ne pas se plaindre, de ne pas forcément se reposer sur le gouvernement. Donc ce n'est pas une classe sociale qui est particulièrement vocale et qui a tendance à être écoutée. Mmh. Au contraire, d'autres minorités, beaucoup moins persécutées que ce qu'on veut le dire, et beaucoup plus vocales. Je pense notamment à certaines minorités ethniques. Cette Amérique-là, oui, elle existe et elle est très importante, et elle constitue d'une certaine façon, non pas le socle, mais une partie importante de l'électorat de Donald Trump.
Dernière question relative à une image qui reste ancrée dans la perception que l'on a à l'étranger des États-Unis, c'est l'image du consumérisme. C'est une image qui est très forte. Alors, la maison, les trois voitures, les X téléviseurs, les X smartphones et autres. Aujourd'hui, cette soif de consommation, au-delà de l'aspect politique, cette soif de consommation, elle est intacte, elle demeure indépendamment du contexte que vous venez de nous décrire durant ces quelques instants.
Elle demeure comme objectif parce que les gens, la civilisation américaine ou la société américaine aujourd'hui reste une société matérialiste qui mesure énormément le succès en termes financiers, donc en termes d'accumulation de biens. Maintenant, j'ai envie de vous dire que la société américaine est beaucoup moins riche qu'elle ne l'a été à une époque. L'histoire des trois voitures, une voiture par personne, ça reste nécessaire, notamment des consorts, des grands véhicules de transport en commun existent, qu'on ne peut pas se débrouiller sans, de toute façon. Donc il faut que chacun ait son véhicule pour pouvoir se déplacer. Mais il y a quelques années, il y a une génération, on se mariait plus jeune, on se lançait dans la vie professionnelle plus tôt, on devenait propriétaire plus tôt, et les études de vos enfants vous coûtaient beaucoup moins cher. Aujourd'hui, on constate que les ménages se marient de plus en plus tard, qu'ils ont des enfants de plus en plus tard, qu'ils deviennent propriétaires de leur logement de plus en plus tard, et qu'ils doivent parfois eux-mêmes s'endetter pour envisager de payer les études de leurs enfants. Or, ce schéma-là, c'était celui de la progression sociale aux États-Unis, où vous deveniez propriétaire, vos enfants faisaient des études qui leur permettaient d'avoir des situations professionnelles meilleures que la vôtre, et vous aviez le sentiment d'un progrès linéaire et, en quelque sorte inarrêtable. Et pour la première fois aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les générations qui sont nées après 1981 et celles qui sont nées, ce qu'on appelle les Z, à l'occasion du tournant du millénaire, ont une jeunesse et un début de vie beaucoup plus difficile que leurs aînés.
D'accord.
Donc est-ce que ça se rétablira et qu'ils redeviendront aussi riches? Je n'en sais rien, mais on constate qu'il y a cette cassure par rapport à ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et pendant la deuxième moitié du XXe siècle. On a pu ce progrès systématique d'une génération sur l'autre.
Merci Gérald Olivier pour l'ensemble de ces analyses sur la situation aux États-Unis. On revient sur le vieux continent en Europe qui a débloqué une enveloppe de 50 milliards d'euros sous la forme de prêts et de dons pour aider l'Ukraine à couvrir ses besoins immédiats en matière de financement, l'aider à soutenir son économie. Il y a cette aide qui est apportée en termes macro-financiers supplémentaires. On est sur 1,5 milliard d'euros sous la forme de prêts à taux concessionnels et puis également fourniture tout simplement de cash pour aider le budget ukrainien à tourner. Il y a des efforts militaires tout à fait significatifs qui sont faits par l'Ukraine. Au-delà de l'aide américaine, de l'aide européenne, il y a tout ce que produit l'Ukraine en termes d'armement. L'économie de l'armement ukrainienne est en train d'éclore avec les drones, notamment également avec des armes de type robotique qui sont en train d'être développées par des usines, par des ingénieurs, par des chaînes de production typiquement ukrainiennes, 100% ukrainiennes. Il faut de l'argent pour faire tourner ces industries, pour acheter le matériel, pour payer les salaires. Et c'est ce à quoi l'Union européenne va s'atteler en apportant ce soutien qui est tout à fait conséquent parce qu'il n'y a pas que les armes seulement. Il y a aussi l'économie. Souvent, la guerre est un double rapport de force, militaire au sens premier du terme, mais également militaire. Souvenons-nous que lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est achevée, eh bien, la Russie de l'époque avait des capacités de production qui étaient autrement supérieures à celles de l'Allemagne nazie, ce qui fait que la Russie a pu battre par la puissance industrielle, au-delà de la puissance militaire, a pu battre l'Allemagne nazie. Alors on n'est pas du tout dans cette configuration, dans ce type de rapport de force, mais c'est juste pour bien comprendre ô combien il est nécessaire que cette économie ukrainienne soit soutenue afin que celle-ci, cette économie, puisse elle à son tour soutenir l'effort de guerre dans ce combat ukrainien qui est loin d'être terminé. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève Economia. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.